Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Bonjour à toutes et à tous. Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. Vous savez que mon site Chronique d'un siècle attend toujours vos commentaires et vos questions. Je reviens de Lille. Cette ville me conforte dans ma colère contre les mesures soi-disant écologiques de nos politiques et leurs valets. Le boulevard Carnot, axe routier important à l'entrée de la ville, dont les quatre voies n'étaient pas superflues, est devenu, en l'espace des deux mois d'été, une rue à deux voies, embouteillée des potrons minés. Les vélocipédistes, activistes écologistes patentés, avaient réclamé à corps et à cri des voies cyclables et des parterres verts entourés de petites barrières en bois pour faire campagne. Résultat, rétrécissement de la chaussée et élargissement des trottoirs sur lesquels les piétons sont tout juste tolérés par les cyclistes et leurs vélos embellis du petit panier à provisions, indispensable signe de reconnaissance de ceux qui ont pris conscience que manger bio-vegan sans gluten était le plus sûr moyen de sauver la planète. Bref, entrer dans l'île est devenu un véritable cauchemar. Maintenant, un petit intermède des goguettes pour retrouver le sourire.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui t'arrive ce soir. Tu ne reprends pas d'escalope de soja ?
Encore du bio, toujours du bio, rien que du bio.
Mais je les ai achetés chez Naturalia.
Marre du bio.
En dessert, j'ai préparé un flan avec du lait de riz.
Du bio liquide, du bio sous vide, c'est bien trop bio.
Saupoudré de graines de sarrasin concassées.
Bien trop bio.
Allons le déguster tous les deux, là-bas, sur le compost, main dans la main.
Mais c'est fini, les privations. Moi, je veux du gras aussi, des Big Mac à foison.
Je voudrais te déclarer ma flamme dans les toilettes sèches, mais j'ai peur de tout brûler.
Les muesli, les crêpes au quinoa.
Préfères-tu une laitue, une frisée ou...
Merci, pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre.
Pissenlit.
Qui aime le piorg, les biscuits à l'épaule.
Scarole encore, tous les deux.
Scarole, scarole, scarole.
Rien qu'une feuille.
Scarole, scarole, scarole.
Une toute petite feuille.
Scarole, scarole, scarole.
Je t'en prie.
Scarole, 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 scarole. Et encore des scaroles. On en mange tout le temps.
Écoute ton karma, remets-toi sur la bonne voie.
Je veux des colorants, des édulcorants.
Mais non, regarde le pâté de tofu qui court dans l'herbe.
Des épaississants.
Tes yeux sont comme deux fleurs de courgettes qui naîtraient à l'aurore dans mon ciel sans matière grasse.
Conservateur, moi-même pas peur, vive le McDo.
Tu es ma terrine végétale d'aubergine.
Et Monsanto.
Ma tisane ayurvédique avec les petits proverbes écrits dessus, mon velouté de fin de carotte.
Le beurre brûlé, les OGM. Je veux tout essayer, m'empiffrer de gluten.
Mais non, partons plutôt en Ardèche, faire pousser des brebis dans les dunes.
Parabènes, phtalates et pesticides.
Je te ferai des sandwichs sans pain.
Oui, ça j'en veux bien, et tu peux bien m'en servir à dîner.
Mais sans viande.
ça pète, il faut bien se lâcher.
Sans fromage.
Moi, le tofu, ça fait pas mon bonheur.
Sans sel.
Ça me fait des prix.
Sans sel.
Et ça me fend le cœur.
C'est des nouveaux sandwichs, c'est juste une feuille de scarole en fait.
Scarole, scarole, scarole.
Et une feuille.
Scarole, scarole, scarole.
Je ne te reconnais plus.
Scarole, scarole, scarole.
Depuis que tu as mis cette rose.
Scarole, 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 scarole. Et encore des scaroles. C'est si déprimant.
Arrête, tu vas faire chanter tout le monde.
Mais bon sang que les ingénieurs prennent exemple sur l'Allemagne avant de faire n'importe quoi. En effet, en Allemagne, tout le monde a sa place et rien ne se fait au détriment d'une partie des citoyens. Et en Autriche, dans la capitale, à Vienne, on se baigne dans le beau Danube bleu. Quand je pense que les sportifs olympiques ne peuvent toujours pas se baigner dans la Seine. Mais voici un extrait du beau Danube bleu de Johann Strauss, interprété par l'orchestre Johann Strauss de Vienne. Vous avez bien compris que l'émission d'aujourd'hui est la suite de celle de la semaine dernière sur les chiffonniers et l'écologie. Avant de revenir aux chiffonniers, je voudrais évoquer les journées à la campagne au XIXe siècle, qui étaient on ne peut plus dans l'esprit écologiste que recherchent nos activistes. Dès 1847, les trains de plaisir furent mis en place. C'étaient des trains spéciaux de promenade à prix réduit, jusqu'à moins 70%. Leur destination était les stations balnéaires, les centres touristiques, mais ils desservaient aussi les environs de Paris. Sous le Second Empire, la vogue de ces trains fit fureur. Le succès fut tel que la littérature, la musique s'emparèrent du sujet. Voici d'ailleurs une polka de Johann Strauss encore, intitulée « Train de plaisir ». Ces trajets se faisaient en train et l'on allait canoter, se baigner dans une eau propre, manger dans les guinguettes, etc. Maxime Vauvert, un journaliste, écrit en 1869 dans Le Monde illustré une arrivée sur une des îles aux alentours de Croatie. Nos députés écologistes devraient en prendre de la graine au lieu de nous arroser des éco-cups. On descend à Rueil. La sortie de la station est en pente, ce qui fait que les gens pressés s'attardent en tombant à terre. Au bas de la rampe stationnent les omnibus américains qu'on envahit et un adolescent qui agite un drapeau. Le but de cette manœuvre est d'avertir les voyageurs qu'un bateau à vapeur, tout prêt à les transporter à la Grenouillère et d'autres lieux, stationne au commencement du pont. On passe sous la voûte du chemin de fer et l'on trouve à gauche un chemin exécrable qui vous conduit par la ligne droite au bateau que les canotiers appellent le Great Eastern en raison de ses dimensions proportionnellement gigantesques. La partie sérieuse des voyageurs monte dans les voitures. La folle jeunesse célibataire des deux sexes se dirige vers le fleuve où le patron appelle les passagers à grand renfort de cloches. Le dernier arrivé a mis le pied sur le pont, la machine siffle, on part. Donc pas d'émission de CO2 due aux embouteillages des journées de campagne des Parisiens et autres urbains. Mais revenons à nos chiffonniers, ceux qui, avec leur hotte sur le dos, leurs crochets et leurs lanternes, recyclaient tout objet rejeté. Ces chiffonniers, dont Walter Benjamin, dans son étude sur Baudelaire, écrivait « Les chiffonniers étaient de plus en plus nombreux dans les villes depuis que les déchets avaient acquis une certaine valeur du fait de nouveaux procédés industriels ». Cette figure incontournable de la vie économique devint un personnage important de la littérature sous la Restauration, et surtout sous la monarchie de Juillet. En effet, Louis-Philippe fut le roi de la Révolution industrielle. En littérature, le chiffonnier fut rapidement assimilé à la sagesse, à la philosophie. La raison, on la trouve dans une comédie de 1826, « Le chiffonnier ou le philosophe nocturne » d'Emmanuel Théolon et Étienne Crétu. Vous sentez bien que ce n'est pas en ramassant des chiffons et en arrachant les affiches qu'on peut vivre honorablement. Oh, il y a de mauvais jours, c'est vrai, mais quand on n'est pas content, il faut être philosophe. Un chiffonnier va personnifier ce personnage, c'est Liard, que l'on retrouve dans de nombreux ouvrages. Charles Hyriat, né en 1832 et mort en 1894, était un homme de lettres, dessinateur, touche-à-tout, qui a laissé des témoignages extraordinaires sur Paris, les Parisiens, les femmes, mais aussi sur ses voyages en Europe. Il a donc laissé un témoignage sur Liard, qui était devenu une célébrité des rues de Paris. Liard a bien mérité le surnom de philosophe que la population parisienne lui a décerné. Il justifiait tout à fait s'il n'avait pas eu ce grain de coquetterie qui le poussait à étaler sa science. Il y avait deux hommes en lui, un homme simple et bon, qui, se sentant au-dessus de ses collègues de la hotte et du crochet, leur servait de conseiller et essayait de les arracher à leurs mauvais penchants. Un ancien homme comme il faut, qui s'irritait qu'on le vînt voir comme un curieux personnage et cherchait à éblouir ses spectateurs par un luxe de citations et un étalage inutile de science. Liard, à la fin de sa vie, était devenu un peu exalté, et comme on vantait beaucoup sa connaissance des auteurs classiques de l'Antiquité, il se promenait en récitant des vers de Virgile et parfois même des morceaux entiers de l'Iliade et de l'Odyssée. Liard avait un fond intarissable de gaieté. Il était frondeur et légèrement sceptique. Il raillait avec une certaine grâce ceux qui voulaient lui arracher quelques révélations sur son passé et trouvait aussi bien que Jules Janin une citation ingénieuse pour toutes les circonstances de la vie. Il est évident qu'il n'avait pas toujours manié le crochet et porté la hotte, mais il est difficile de dire au juste quelle était sa position sociale avant cette suprême décadence. Il est chiffonnier comme on est notaire. Pour vivre honorable et indépendant, il n'y a pas de saut métier. Et d'ailleurs, de père en fils, les chiffonniers sont honnêtes gens. Il ne s'agit que de fouler aux pieds le respect humain. Voilà qui est fait. Il s'habillera de défroque aussi propre que possible. Il vivra selon ses moyens, sans rien devoir à personne, heureux de cette indépendance. Il se frottera tous les vices sans les partager. Il traversera toutes les fanges sans en être souillé. Vers 9h du soir en hiver et vers 10h en été, il quittera la fosse au lion ou la cité dorée où il a un pied à terre et armé de son crochet, de sa lampe et de son sac, car Liard n'a jamais porté la hotte, il quittera le boulevard de l'hôpital, passera les ponts et descendra vers les quartiers où les heureux d'ici-bas font preuve d'opulence jusque dans les détritus que leurs gens déposent à leurs portes. Il montera la rue de Clichy ou la rue d'Amsterdam et se rendra sous les arcades du monument de la Barrière où se tient la bourse des chiffonniers. Depuis qu'on a démoli ce monument, la bourse est transférée de l'autre côté dans un cabaret borgne qui fait pendant au restaurant qui a pour enseigne à l'attaque de la barrière Clichy. On se dira le prix du chiffon, on se partagera les quartiers et le lendemain on se retrouvera au rendez-vous donné. Qui voudrait croire, hormis les Parisiens qui l'ont connu, qu'un homme bien né d'une excellente éducation, ruiné par un de ces événements si fréquents, a pu vivre 20 ans de cette vie sans chagrin, sans triste souvenir, sans se considérer comme un déclassé et partant sans envie et sans amertume. Liard fut une célébrité de la rue et l'une des moins contestées. Les artistes et les littérateurs se faisaient gloire de le connaître. Il causait volontiers avec eux et cette fréquentation lui donnait une grande influence parmi ses collègues du crochet. Ce personnage a traversé le temps. Il est une sorte d'image d'Épinal du chiffonnier. Mais le chiffonnier, c'est aussi celui qui appartenait à un monde parallèle, un monde qui avait ses règles, ses habitudes, ses quartiers, ses fêtes. Ainsi, Georges Grison, dans son Paris horrible et Paris original, rapporte que quand un chiffonnier avait une fille de 14-15 ans et qu'il voyait des soupirants autour d'elle, il exigeait que l'un d'eux devienne son esclave, renonçant totalement à sa liberté pour obtenir la jeune fille. Au bout d'un an, le jeune esclave pouvait renouveler le bail ou alors reprendre sa liberté. Et dans ce cas, le père cherchait un nouvel esclave. Et pourtant, il existe une autre vision du père chiffonnier qui tient à l'honneur de sa fille, comme on l'entend dans la chanson « La fille du chiffonnier ».
La fille du chiffonnier, créée et enregistrée par Pérard. Soir d'hiver, par une nuit pâlote, elle naquit n'ayant pour tout berceau qu'un tas de chiffons oubliés dans la hotte que le papa reprenait sur son dos. Sa maintenance augmentait la famille, à peine minuit du courage au labeur, et tout heureux de posséder une fille, le chiffonnier sentait la joie au cœur. Comme on grefouille les vieux chiffons, les vieilles loques, les guenilles, c'est pour ma gosse aux cheveux blonds, pour élever mon trésor, ma fille, que je trime ainsi jusqu'au jour où cet enfant, ma seule richesse, courageuse et forte à son tour, sera mon bâton de vieillesse. Le chiffonnier reçut un jour une lettre, c'était sa fille qui lui disait ceci: pardonne-moi et daigne me permettre de t'expliquer ma suite du logis. J'ai un amant, plusieurs fois millionnaire, j'ai domestique, voiture, diamant. Si vous voulez dès demain ne rien faire, maman et toi vous aurez de l'argent. De l'argent, on profouillera les vieux chiffons, répondit le père plein de rage. Tu peux garder tous tes millions, tes valets, équipage, t'as fondu ta beauté, ton cœur. Désormais, tu n'es plus ma fille, mais sache que souvent l'honneur se cache sous une guenille.
Un des quartiers des chiffonniers était situé vers la porte de Saint-Ouen. Ces biffins étaient connus pour leurs poulets de grain très recherchés par les gourmets. En effet, ces chiffonniers avaient des stocks de peau de lapin qu'ils étalaient au soleil afin que leurs poules viennent picorer les vers qui grouillaient dans ces peaux dontanées. Ça, c'est de la véritable économie circulaire et solidaire. Quant au nettoyage des peaux sans produits chimiques, rien de plus écologique. D'autres cités, quelquefois élégantes, se situaient rue de Marcadet ou encore entre Grenelle et Billancourt, et même derrière le Père Lachaise. Mais le quartier qui a fait couler beaucoup d'encre est le Petit Mazas, lieu sordide, si bien décrit par Jules Vallès dans le tableau de Paris. Le Petit Mazas est la grande cité des biffins. L'entrée donne, comme celle de la casserole, sur la route de la révolte. C'est une ruelle qui s'allonge dans la vase jusqu'à une haie de chardon qui sert de limite au dernier taudis. Taudis, ce mot est bien noble. Des cages à lapins ou des étables à cochons, de petites huttes à couverture de papier bitumé que crève la pluie et démantibule le vent. La terre fangeuse suinte sous leurs pieds ou sur leurs épaules, suivant qu'ils sont debout ou couchés. Le plâtre s'effrite des murs tout rongés par l'eau et ébranlés par les frottements des locataires qui écrasent la vermine blottie entre leur peau et leurs guenilles. Il y a quelques chiffons pourris qui servent de matelas dans un coin, un berceau moisi abandonné par des pauvres où un enfant dort dans un sac. C'est là-dedans que vivent les dandys de la haute et les calés du biffinage, ceux qui ont des enfants et une femme, légales ou au petit pot, ainsi que l'on nomme les concubines dans ce pays. C'est là qu'ils élèvent leur famille ou se tordent dans les délices de la lune de miel. Les bambins, ma foi, bâtards ou légitimes, n'ont pas l'air plus malheureux que les fils de riches, et les bébés mordent au sein de la chiffonnière leur mère avec autant d'appétit que les autres aux mamelles payées de leur nourrice. Ceux qui sont grandets déjà font leur petit tas d'ordures avec le même sérieux que les bébises des Tuileries font leur tas de sable. Et ils ont plus de joujoux que les héritiers des millionnaires. Le père a ramassé cela, pourri, décollé, cassé, mais leurs gros yeux bleus et leurs menottes grassouillettes s'écarquillent tout de même pour regarder et saisir le polichinelle ou la poupée. Et les papas les font rire tout comme d'autres, en les agaçant de leurs doigts crottés ou en les chatouillant de leurs barbes pouilleuses. Tout chiffonnier du petit Mazas à son compagnon qui garde sa haute plaine le jour et son bout de jardin la nuit. Car il y a un jardin, large comme le mouchoir de poche d'un invalide, devant la plupart des cahutes. Il n'y pousse rien, les lilas y crèvent, les fleurs qu'on y plante meurent, mais le chiffonnier peut s'étendre là, le ventre au soleil, la marmaille peut s'y vautrer, et à l'heure de la besogne, on a de la place pour le triage. Car rien ne se perd, rien, pas un brin de viande ou de laine, pas une miette de fer ou de pain, pas la tête d'une carotte ou le cul d'un ver. Ce qui était moisi, pourri, se change en graisse de ressort, huile de machine, pommade de locomotive. Ce qui était fané, brisé, déshonoré, redevient luisant, se recolle et se ressoude. L'industrie refait à tout une virginité. S'il y a un os qui est encore de la peau, on le gratte. S'il y a un chou à moitié pourri, on le nettoie. La famille mange la chair, l'enfant suce le manche, les trognons tournoient dans l'écume du pot-au-feu. 2 heures de cuisson et un bain de vinaigre lave et brûle bien des plaies. Quand on est dégoûté de la légume parce qu'on y a trouvé un cheveu, ou de la viande parce qu'on y a trouvé des strophes, le tout est abandonné au chien ou au lapin. Une fois le triage fait, l'on mêle tout ce qui, au poids, est payé le même prix. L'os, le cristal cassé et le pain malpropre valent 1 sou la livre. 2 sous le chiffon blanc sale, coton ou toile non teint. 4 sous le blanc propre. 4 sous le zinc, le plomb, la graisse. Entendons-nous. La graisse, première qualité, se vend directement aux marchands de pommes de terre frites qui viennent s'approvisionner là. C'est celle du poisson mort, du chat crevé, celle qu'on cueille sur l'os ou qu'on trouve dans les pots de cold cream et les flacons de pommade. On fond cela dans des chaudières, le feu purifie tout, et Gavroche se lèche les doigts des beignets dont on a jeté la pâte dans cette nouvelle graisse moelleuse et blanche qui chante dans la poêle comme du beurre d'isigny. On vend 50 sous le quintal les vieilles chaussures qu'on fera brûler et qui serviront à tremper les ressorts de voiture. 50 sous aussi le quintal de ferraille, mais le cuivre se paye haut la main, 8 sous la livre. La laine veule, que n'a pas tordu le métier, fraîche ou crottée, vaut 10. 12 et 14 sous. 10 sous un vieux chapeau. 5 boîtes à sardines, 2 sous. On les soumet au feu, l'étain tombe, on les redresse sur un mandrin et elles servent à faire des jouets d'enfants. L'affiche sale ou propre, rouge ou blanche, 2 liards la livre. La chaussette sale, 20 centimes. La chaussette propre, 40 centimes le kilo. Une peau de chat saine, c'est 10 sous. Une livre de cheveux de femme, 7 francs. Le perruquier fait sa tournée et récolte les chignons. L'industrie réavale tout. Si demain les bifins faisaient grève, il y aurait des brasiers qui s'éteindraient, des métiers qui cesseraient de battre et, dit-on, des restaurateurs qui fermeraient. Ce texte de Jules Vallès ne laisse aucune place à l'embellissement, à l'image d'Épinal. Certes, certains chiffonniers s'enrichirent en louant des taudis, en faisant travailler les autres biffins, et l'on ne manque pas d'exemples de personnalités dont la fortune naquit dans ce monde du crochet. Ainsi, Emmanuel Bénézite écrivait dans Petits métiers, petites industries. Du reste, il est des chiffonniers qui font de brillantes fortunes. C'est souvent une question de chance, mais surtout une question d'ordre et d'économie. Nous pourrions citer plus d'un gros industriel ayant porté la haute dans sa prime jeunesse. Certains chiffonniers, quand ils s'établissent sur des terrains de peu de valeur, les louent avec promesse de vente et quelquefois même les achètent. Le fait s'était produit à la Cité Dorée, comme il s'est produit depuis à la nouvelle cité Jeanne d'Arc. Les lopins de terre appelés à servir à la construction de maisons de rapport furent échangés contre de beaux écus comptants, de quoi abandonner la recherche du chiffon pour devenir marchand en gros. Avec l'agrandissement constant de la grande cité, le fait s'est produit 100 fois et se reproduira encore bien souvent. La description de ce monde pourrait durer encore bien longtemps tant il existe d'écrits sur ceux qui assuraient la propreté des rues, surtout le recyclage du moindre bout d'os ou de cigare, car en effet il existait parmi les biffins ceux qui se spécialisaient dans le ramassage des bouts de cigare, ainsi qu'on peut le lire dans La Vie de Paris, guide pittoresque et pratique du visiteur d'Élie Frébeau. Ce qu'on connaît moins, c'est la petite bourse des bouts de cigare qui se tient de 8h à 10h du matin sur le trottoir Place Maubert. Ce marché a sa cote, tout comme la bourse. Le kilogramme des bouts de Londres vaut de 1,50 francs à 2,50 francs suivant la longueur des bouts. Les bouts de cigares de 5 et 10 cm ne se vendent que de 75 à 1,50 francs le kilogramme. 4 ou 5 marchands en gros se tiennent chez les marchands de vin des environs de la place et traitent directement avec leurs fournisseurs ordinaires. Quelques vieillards, des ouvriers besogneux, viennent aussi Place Maubert renouveler leurs provisions de tabac. Les bouts de cigares sont la source d'un commerce des plus actifs. Les ramasseurs explorent dès l'aube toute la ligne des boulevards et des Champs-Élysées. Toute la matinée est consacrée à cette besogne. Ils achètent aussi aux garçons de café les bouts qui traînent dans les salles. Puis ils placent la récolte dans une large poche aménagée sous leur paletot et se rendent sur les berges de la Seine, principalement au pont de la Concorde où ils se livrent à l'opération de coupage. Leur outillage se compose d'un petit carré de bois pour poser la marchandise, d'un couteau à lame fine et d'une pièce à repasser. Une fois haché, le tabac est mis en paquet et se débite à 2,50 francs la livre. On vend un sou, la valeur de 20 centimes de tabac ordinaire. On fabrique les cigarettes par le même procédé. Les balayeurs municipaux, les petits bimbelotiers de la rue, les camelots, les ouvriers des berges, les débardeurs, les tireurs de sable, les mariniers, les pêcheurs à la ligne forment le fond de la clientèle. Il y a à Paris environ 200 négociants en bouts de cigares qui font des journées de 3 à 6 francs. L'industrie des bouts de cigares représente un capital annuel de 250 000 francs. Enfin, je ne résiste pas à cette dernière petite industrie décrite toujours par Élie Frébeau. Je veux vous signaler encore une autre petite industrie de la rue, qui est celle-là bien peu connue des Parisiens. À certains endroits de la Seine se trouvent deux radeaux ensemble qu'une chaîne amarrée à un pieu retient à la berge. Ces radeaux forment deux angles aigus où viennent s'arrêter tous les détritus et immondices que le grand égout collecteur déverse dans la Seine. Chaque jour, un homme passe sur ces radeaux, enlève la couche graisseuse de ces détritus qui surnagent sur l'eau et la vend aux petits fabricants de savon. On constate donc qu'au XIXe siècle, la société n'avait pas encore pris l'habitude de la consommation à gogo. L'objet Kleenex n'existait pas et chacun contribuait à sa manière à la sauvegarde d'une planète que l'on massacre allègrement depuis la Seconde Guerre mondiale. Le recyclage touchait même la nourriture. Il existait ce que l'on appelait alors un arlequin. Je laisse Privat d'Anglemont, dans Paris Anecdote, en donner l'explication. Voici la mère Maillard. C'est une bijoutière ou marchande d'arlequins. Je ne sais pas trop l'origine du mot bijoutier, mais l'arlequin vient de ce que ces plats sont composés de pièces et de morceaux assemblés au hasard, absolument comme l'habit du citoyen de Bergame. Ces monceaux de viande que vous voyez là sont très copieux, et cependant ils se vendent un sou, indistinctement. Ce bon marché n'a rien d'étonnant. La mère Maillard a passé un traité avec les laveurs de vaisselle de presque tous les grands restaurants. Ces hommes qui sont relégués dans une étuve où, d'un bout de l'année à l'autre, ils restent soumis à une chaleur de 60 à 80 degrés centigrades, ont généralement 25 francs d'appointement fixe par mois. Mais ils se font de 4 à 500 francs par mois avec les restes qui leur appartiennent. Ce qu'on appelle en termes du métier les rogatons, c'est-à-dire tous les morceaux que la pratique laisse dans les assiettes, se vendent par seau. C'est là ce qu'achète la mère Maillard, et c'est avec cela qu'elle compose ses arlequins. Le seau vaut 3 francs. On y trouve de tout, depuis le poulet truffé et le gibier, jusqu'au bœuf au chou. Les ortolans, si on en mange à Paris, y coudoient familièrement le modeste beefsteak. Les os grasses, les os, les rognures, les épluchures se vendent à part. La graisse se met dans de petits barils. Elle est achetée par des fabricants de lampions pour les illuminations, à raison de 7 francs le baril. C'est un prix fait, comme les petits pâtés. La mère Maillard travaille tous ses rogatons. Elle les assemble, elle les assortit, elle les approprie et les vend aux gens aisés pour les animaux domestiques et aux pauvres pour leur nourriture. Quand je pense qu'aujourd'hui il est interdit de vendre et même de donner de la nourriture invendue, mais je suppose qu'un arlequin ferait s'évanouir la Commission européenne de l'hygiène. La mode végane doit bien arranger les députés européens, dont le rôle principal est de subvenir au grand capital. Aussi, mettre dans la tête des gens qui s'ennuient que déguster le miel des abeilles, boire le lait des vaches, manger les œufs des poules, sans parler de la viande, est une abomination faite contre la nature et donc contre la planète, est un moyen efficace pour leur donner le sentiment qu'ils sont individuellement responsables des problèmes globaux de la planète et de la société. L'émission se termine et je vous laisse avec « Elle est végane » des Goguettes afin que vous passiez une très bonne journée. Au revoir.
Je l'ai vu, j'en suis tombé amoureux et voulant sortir le grand jeu, je l'invite à dîner chez moi. Je prépare un festin de roi. Elle s'installe et là, c'est le drame. J'avais pas prévu ça, elle est végane. Elle me conte la voix nouée de sanglots, tous les malheurs des animaux. Je souris en hochant la tête, mais je pense à la tartiflette qui chauffe dans le four puis tout à l'heure. Je brûle un encens pour masquer l'odeur. Elle me dit que c'est pire que de l'esclavage, ces abattoirs, ces élevages. Elle voudrait faire arrêter ça. Et moi j'ai l'air con avec mon fromage, mes rillettes et mon attelage de charcuterie et de foie gras. J'ai compris que si je voulais gagner son cœur, fallait que je dise adieu au lard d'amour. Adieu rôti, merguez, adieu paupiette, bonjour les délices de courgette, adieu gruyère, minster, gouda, bienvenue au steak de soja, j'ai quand même un pincement au cœur. Quand je pense en secret à un cheeseburger, la mort dans l'âme, je suis allé hier dire adieu à ma charcutière. Je vérifie la composition du moindre bocal de cornichon. Comme je mange plus de ni de lait ni de beurre, c'est vrai que je m'emmerde un peu à la chandeleur. Je tiens bon, mais c'est pire que de l'esclavage. Et quand je vois un plateau de fromage, je veux lui dire, emmène-moi. La nuit, je fais des rêves de carnage, où je mange tout seul comme un sauvage, une vache entière avec les doigts. Et puis, je me réveille, tout en sueur. Elle a fait le petit-déj, fenouil vapeur. J'ai pas le droit de toucher un poil de la tête d'aucune de nos amies les bêtes. L'été en terrasse, même s'il me pique, je peux pas écraser les moustiques. Je galère pour faire mes tableurs. Elle a libéré la souris de mon ordinateur. Quand on se balade sur la plage, faut
Oubliez chaque coquillage, ça rend le truc trop compliqué. Quand elle conduit et que dans un virage, un chat traverse, c'est le naufrage. On finit dans le bas-côté. Mais qu'importe les privations, je serai heureux tant que j'aurai le droit de la bouffer des yeux.
Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier
sur Radio Boomerang 89.7 FM.